journal du midi. Mel Emmanuel.
Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Radio de la Paix, le sommaire de ce 12h. Lancement officiel hier lundi des activités de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Celui-ci offrira un cadre de réflexion et de partage d'expériences et d'expertise en vue de faire face aux enjeux de développement durable. Fermeture officielle des pêches en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure les consommateurs de la disponibilité de poissons durant la période de fermeture. Hors de nos frontières, Internet est coupé depuis hier en Mauritanie, dans un climat de contestation après l'annonce des résultats finaux provisoires de la présidentielle, donnant le sortant El Ghazouani vainqueur. Et de retour en Côte d'Ivoire, ce journal prendra fin avec l'invité de la rédaction. Il s'agit de Fulgence Nguessan. Il est le chef de service prévision générale et météo marine à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam. Et avec lui, nous parlerons des effets dévastateurs qu'ont eu les pluies diluviennes durant le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a procédé hier lundi au lancement officiel des activités de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX, prévu se tenir du 27 novembre au 2 décembre prochain à Abidjan, où quelques 300 exposants et 20 000 visiteurs sont attendus. Plus de détails avec Jean-Bélène Bitti.
Pour ce salon qui est prévu se tenir chaque 2 ans, le ministre Sangafoa Koulibaly, par ailleurs chargé du comité de pilotage, a situé les enjeux de cette première édition.
Le CIREX offrira un cadre de réflexion et de partage d'expériences et d'expertise entre les professionnels des industries extractives et énergétiques, les pouvoirs publics et le grand public, en vue de faire face aux enjeux du développement durable. Il sera un marché d'opportunités et de conclusions d'affaires.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a indiqué qu'à travers ce salon, la Côte d'Ivoire fera montre de ses capacités dans ce secteur.
Ce salon sera un joyau qui mettra en évidence la chaîne des valeurs qui fonde l'un des secteurs les plus importants de la vie humaine, parce que là, la Côte d'Ivoire montrera de quoi elle est capable dans le domaine des mines, pétrole et de l'énergie.
Robert Begré-Mambé a saisi l'occasion pour faire passer un message aux étudiants ivoiriens qui étudient dans ce domaine. Il dit ceci.
Je voudrais leur dire que le secteur des mines, pétrole et de l'énergie présente de grandes potentialités. C'est pourquoi nous les encourageons à prendre très au sérieux toutes les matières qui sont enseignées. Ouvre des perspectives nouvelles pour eux-mêmes et pour leur avenir.
Pour cette première édition, la Norvège sera le pays invité d'honneur. Il occupe le 3e rang mondial en termes d'exportateurs de pétrole et le 4e rang au niveau du gaz naturel.
Évaluation du développement d'un pays. À côté de l'indice de développement humain, IDH, proposé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, la Banque mondiale propose elle aussi une autre approche qui est l'indice du capital humain, ICH, qui permet de mesurer les efforts d'un pays en matière de bien-être de ses populations. Il s'agira ici de faire une projection sur les capacités de production de chaque citoyen devenu adulte, mais en tenant compte du contexte de son évolution depuis son enfance jusqu'à ses 18 ans. C'est notamment ce qu'explique Dr Germain Cramaud, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
La Banque mondiale a développé l'indice du capital humain. Cet indice prend en compte les questions de revenus générés par ce capital humain. Donc, c'est les bénéfices économiques qui vont en résulter, ce sont les éléments qui sont pris en compte dans cet indice. Donc, l'indice du capital humain va essayer plus ou moins d'établir la corrélation entre le capital humain et la productivité des pays. Donc, comment le capital humain affecte plus ou moins la productivité de ces pays-là. Donc, aujourd'hui, avec l'IDH, on va avoir l'information sur le niveau de développement humain du pays. Mais quant à l'ICH, il va plus ou moins nous indiquer quelle sera la productivité d'un enfant qui est né aujourd'hui lorsqu'il sera à l'âge adulte. Donc, si on prend en compte les questions d'éducation, de santé et de survie, quand cet enfant atteindra 18 ans, est-ce qu'il aura les pleines capacités pour pouvoir être productif?
Mais pourquoi on met l'accent sur l'enfant qui naît et la projection donc de la date de sa naissance jusqu'à 18 ans?
On se dit que lorsqu'un enfant naît dans un pays, lorsque les pays ont les niveaux de développement différents, c'est le niveau de développement va affecter plus ou moins la capacité de cet enfant. Donc un enfant qui est malnutri, lorsqu'il sera adulte, il ne sera pas en pleine possédant toutes ses capacités pour être productif. Un enfant qui est mal soigné ou a une éducation médiocre, lorsqu'il sera adulte, cela va affecter sa productivité.
À l'instant, Dr Germain Cramaux, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en ligne avec Jean-Claude Comet. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, les sociétés coopératives agricoles de café cacao de la sous-préfecture de Yapele, département de Mans, ont proposé de meilleures pratiques en matière de lutte contre l'exploitation et la traite des enfants dans cette partie du pays. Sur place pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Les enfants de la sous-préfecture de Yapele à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants en lien avec l'objectif donne de la voix.
La place d'un enfant, c'est où ?
À l'école !
La place d'un enfant, c'est où ?
À l'école !
L'école a un impact positif sur les conditions de vie des populations. Selon la présidente de la société coopérative agricole Café Cacao Senga de Mans, Bamba Bernadette, d'où son appel.
Chère maman, vous qui êtes ici présentement, envoyez vos enfants à l'école. Vos enfants doivent aller à l'école. Il n'y a rien de tel. Quand tu ne mets pas ton enfant à l'école, peu importe l'effort que l'enfant va faire, il y a toujours un petit handicap.
Une étape chère à la société coopérative Sokamea à travers la coopérative sœur Yeyasso qui entend jouer sa partition liée à la documentation des enfants sans papier dans cette zone productrice de café cacao. Tano Patrick Nestor, directeur Sokamea.
Chers producteurs, si vous avez des enfants qui n'ont pas encore date d'extrait de naissance, vous vous rapprochez de la coopérative Sokamea, vous faites la photocopie de votre pièce que vous ajoutez au nom que vous avez donné. La coopérative Sokamea va s'approcher de la coopérative Yeyasso, qui est notre coopérative sœur, de l'organisation ICI. Et l'organisation ICI, à son tour, va établir les extraits d'âge de naissance de vos enfants gratuitement. Déjà plus.
La remise des kits scolaires et des diplômes d'excellence aux meilleurs élèves a également meublé cette journée. Stéphane Adams, de retour de Yapele, Radio de la Paix.
Ressources halieutiques en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, a procédé hier lundi à la fermeture officielle des pêches au titre de l'année 2024 à Adiaké. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Compte rendu, Jean-Claude Mabéa.
En procédant à la fermeture officielle des pêches en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques a rappelé l'objectif de ce second repos biologique. Sidi Thiemoko Touré.
La fermeture des pêches vise à favoriser la reproduction des poissons et reconstituer les différentes populations de poissons, à améliorer le niveau de capture et les revenus des acteurs, notamment des pêcheurs, mais aussi à assurer une exploitation durable de nos plans d'eau au profit des générations actuelles et futures.
Et sur la disponibilité en poissons sur le marché national, il a tenu à rassurer consommateurs et pêcheurs en ces termes.
Des dispositions ont été prises avec les importateurs de poissons, mais aussi avec les aquaculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de poissons. Le total de disponibilité à ce jour est estimé à 245 000 tonnes de poissons, dont 200 000 de disponibilité physique et 45 000 tonnes de stock en cours. C'est-à-dire que nous n'aurons pas de rupture de poissons sur le marché durant toute la période de fermeture de pêche.
Le gouvernement bénéficie de l'appui de la FAO. Ataé Maïga, son représentant résident.
La FAO reste engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 14 qui vise à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.
A signaler que le gouvernement a prévu la mise en place d'un fonds revolving pour minimiser l'impact de ce repos biologique sur les acteurs du secteur.
Et à noter que la pêche artisanale sera fermée du 1er au 31 juillet, la pêche semi-industrielle et industrielle du 1er juillet au 31 août et les plans d'eau lagunaires et continentaux comprenant les lagunes Abi, Grand Laou et les lacs de Kossou et de Buyo seront également fermés du 1er septembre au 31 octobre. Poursuivons notre tour de l'actualité dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire avec de la diplomatie. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a organisé avec la Chambre de commerce commerce et d'industrie du Haut-Sassandra, une rencontre d'échange et de coopération à Daloa. Il s'agissait d'un échange sur les opportunités et les potentialités du Haut-Sassandra et d'établir des relations pour d'éventuels investissements dans des secteurs d'activité dans la région. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une caravane initiée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas dans plusieurs régions du pays. Jean-Noël Kwame.
L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Jeroen Kelderhuis, au cours de cette rencontre, a mis en avant la solidité des relations économiques entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire.
Les Pays-Bas sont le troisième plus grand exportateur de produits agricoles au monde après les États-Unis et le Brésil. Grâce à une approche inclusive, en 2023, les Pays-Bas sont redevenus le premier client de la Côte d'Ivoire, premier importateur mondial de cacao. Cette caravane marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre le Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous pouvons créer un avenir prospère pour nos deux pays.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Sassandra, Touré Dadjé, a présenté quant à lui les opportunités économiques de la région à la délégation de l'ambassadeur.
Jusqu'en 2020, la région était deuxième producteur national de maïs et de bananes plantain, troisième producteur d'ignames, plus de 6% de la production nationale de manioc, culture pérenne. Nous avons près de 382 153 tonnes. Nous avons la pêche, les bovins, les ovins, le volaille. La région produit plus de 50 tonnes d'or par an, 34 villages avec des potentiels aurifères. Nous avons une unité de décorticage de noix de cajou.
Plusieurs opérateurs économiques présents à cette rencontre ont échangé sur des opportunités d'affaires avec l'ambassadeur et sa délégation pour d'éventuelles coopérations et développement de leurs différents projets. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Une note de santé dans ce journal. Près de 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois seront vaccinés contre le paludisme à partir de la mi-juillet, a annoncé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. C'était lors de la réception à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un important lot de vaccins pour lutter contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. La livraison de 131 100 doses de vaccins antipaludiques fait partie d'un total de 650 600 doses déjà reçues. On fait le point avec Paul-Bénédicte Bolou.
La représentante pays de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Fatim Tall, a rassuré que ces vaccins sont sûrs et efficaces.
Les vaccins sont sûrs et ils ont fait la preuve de leur efficacité, de leur innocuité pour pouvoir réduire les cas de paludisme grave chez les enfants, mais aussi réduire la mortalité chez les enfants. Lors de la phase pilote qui a eu lieu au Ghana, au Malawi et au Kenya, 2 millions d'enfants ont été vaccinés avec une réduction de 13% de la mortalité.
Le représentant Gavi pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana, Alain Ao, qui a financé l'introduction du vaccin sur le choix de la Côte d'Ivoire.
Parce que c'est l'un des pays où il y a beaucoup d'endémicité, mais aussi le fait que le système de vaccination soit assez efficace, probablement l'un des pays qui aura plus de résultats en termes d'efficacité de ce vaccin. Et actuellement, c'est la période des pluies, donc c'est la période de grande endémicité de paludisme, donc c'est le meilleur moment pour lancer le vaccin. Pour le lancement, là, on a mis environ 5 millions de dollars. C'est l'ensemble des coûts, sans compter les coûts des vaccins, qui s'élève à un peu plus que ça.
Pour le ministre Pierre Demba, l'objectif est vraiment de renforcer notre plan de lutte contre la mortalité chez les enfants.
Nous allons aller relever le défi de l'élimination donc du paludisme comme première cause de mortalité dans notre pays. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du chef de l'État, remercier les partenaires qui nous accompagnent pour renforcer notre système sanitaire. L'impact économique de l'acte que nous posons aujourd'hui est tellement important que chacun doit apporter donc sa pierre à l'édification de cette stratégie nationale pour l'élimination donc du paludisme dans notre pays.
Le calendrier vaccinal prévoit 4 doses de vaccins antipaludiques administrées à 6 mois, 8 mois, 9 mois et 15 mois.
Hors de nos frontières, l'Internet des données mobiles est coupé depuis la nuit dernière dans la capitale de la Mauritanie, dans un contexte de contestation après la victoire annoncée hier du sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidentielle. Des témoins ont fait état d'échauffourées survenues dans des quartiers populaires de Nouakchott hier soir, quelques heures après l'annonce des résultats finaux provisoires donnant à El Ghazouani une large victoire dès le premier tour de la présidentielle de samedi. Ces témoins n'ont pas précisé l'étendue des troubles. Et en France, les résultats des élections législatives anticipées sont connus depuis dimanche, avec une montée en puissance du Rassemblement national, le camp présidentiel venant en troisième position derrière le nouveau Front populaire. Quelle lecture peut-on faire de ces résultats? Suivant les explications du professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Deux analyses possibles. D'abord, la première analyse, c'est l'échec de la majorité présidentielle qui se retrouve en troisième position. C'est aussi la montée en puissance de Marine Le Pen et Bardella. Et donc, dans les deux cas, c'est vraiment le président Macron qui est en très mauvaise posture.
Donc, on pourrait dire que le président Macron n'a pas eu raison de dissoudre l'Assemblée et de refaire donc ses élections.
Mais il faut attendre le second tour. Vous savez que généralement, quand le Front National est en pole position comme ça, au dernier moment, il y a un élan patriotique nationaliste qui fait que parfois la gauche et la droite se mettent ensemble pour essayer de barrer la montée, l'arrivée au pouvoir du Front National. Donc la semaine qui a commencé aura donc l'occasion pour les uns et les autres d'essayer de se mettre ensemble pour essayer de faire front commun face à ce parti politique qui est en train de monter en puissance. Même si idéologiquement ils ne partagent pas les mêmes idées, est-ce que cette fois-ci ils pourront le faire? Mais c'est cette habitude-là qu'on a eue en France.
Professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, joint par Junior Cardin. Et nous terminons notre page internationale avec du football Euro 2024. Hier, deux huitièmes de finale ont eu lieu. La France a disposé de la Belgique 1-0 et le Portugal a éliminé la Slovénie 3-0 après un score de 0-0 en temps réglementaire. Pour ce jour, le chapitre des huitièmes se refermera avec deux matchs à 16h, Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie à 19h, temps universel. Dernier virage de ce journal, l'invité de la rédaction. Le chef du service prévision générale et météo marine à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire, Sodexam, explique pourquoi la saison des pluies cette année a été très meurtrière dans le Grand Abidjan, tout en soutenant que pour autant elle va cesser ce mois de juillet dans le sud du pays et s'installer dans la zone centre et nord. Fulgence Nguessan répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, monsieur Fulgence Nguessan.
Bonjour, monsieur Adams.
Il pleut sur la Côte d'Ivoire, singulièrement sur le sud ivoirien, Abidjan compris naturellement. Alors, ce temps qu'il fait en ce moment, est-ce normal?
Il faut dire que depuis le 1er avril 2024, nous sommes en grande saison des pluies pour la partie sud du pays. Cette saison-là va s'étendre de avril jusqu'en juillet. Et le mois de juin est le mois de pic de précipitation de cette grande saison de pluie. Ces fortes précipitations-là ont entraîné un cumul de 540 mm de pluie en 72 heures, qui équivaut à deux mois de précipitation. Donc c'est ce qui a entraîné les débordements de nos réseaux d'assainissement et créé pas mal de dégâts et malheureusement des décès dans le district d'Abidjan.
Si je vous comprends, ces précipitations enregistrées depuis avril, c'est du domaine du normal.
Si on ramène les cumuls au niveau des cumuls saisonniers de précipitations, on tend vers le cumul normal de précipitations qui est autour de 800 à 1200 mm de pluie pour la saison avril-juillet.
Mais qu'est-ce qui est à l'origine, finalement, de ce dérèglement?
Il faut dire que depuis décembre 2023, la Sodexam a émis une note d'information par rapport au phénomène planétaire El Niño, dont ses conséquences étaient les hausses des températures, des déficits pluviométriques dans certains endroits du monde et des hausses de pluviométrie dans d'autres. Donc, les conséquences de ce phénomène planétaire-là chez nous, on a assisté d'abord dans le mois de mars-avril à des hausses températures. Pour preuve, nous avons enregistré 41,3 degrés de température à Dimboko qui est un record et nous avons aussi enregistré des fortes précipitations. Ce qui montre que le phénomène El Niño, ses conséquences ont accentué les précipitations dans cette saison des pluies.
El Niño, expliquez.
C'est qu'on a un phénomène planétaire. Son rôle, c'est d'augmenter la température au niveau du globe terrestre. Donc, une fois que la température augmente, on aura plus d'évaporation qui est la vapeur d'eau qui va monter dans le ciel pour créer assez de nuages. Et beaucoup de nuages vont entraîner beaucoup de pluie.
Mais Cette saison de pluie, assez particulière quand même, on peut le dire, prend fin quand? Surtout en ce qui concerne la zone sud, Abidjan.
Cette saison de pluie va prendre fin dans le mois de juillet. En allant dans le mois de juillet, vous allez remarquer une atténuation des précipitations. Donc, jusqu'en fin juillet, on sera en fin de la grande saison des pluies. Et même, ça sera le début de la grande saison des pluies dans la partie bande centrale et nord du pays.
Mais cette zone centrale et nord du pays, est-ce possible qu'elle soit confrontée au même problème vécu au sud et surtout à Abidjan?
Abidjan est spécial hein, avec sa démographie galopante. Donc on aura de fortes précipitations à l'intérieur du pays, mais les dégâts ne seront pas pareils comme Abidjan.
Et au moment où la grande saison pluvieuse s'apprête à s'installer dans le nord et le centre ivoirien, quelles seraient les recommandations de la SODEXAM aux populations de Côte d'Ivoire?
La SODEXAM demande aux populations de Côte d'Ivoire d'être à l'écoute des informations météo. Et aussi, nous demandons à la population d'être informée des informations les plus fraîches possibles, parce qu'une nouvelle information météorologique annule automatiquement la précédente. Et aussi, nous invitons la population d'éviter les zones inondées en cas d'inondation et d'avoir à portée de leur main les numéros des sapeurs-pompiers, de la police et de l'ONPC pour les appeler en cas d'urgence.
Comment s'informer exactement en prévision des risques?
La meilleure manière d'avoir l'information fraîche et précise, c'est d'être à l'écoute des informations que la SODEXAM ventile sur ses réseaux d'information. Nous invitons la population à visiter très souvent les sites internet de la SODEXAM et ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, pour avoir l'information en temps réel.
Mais ces populations qui vivent dans les campagnes, loin de la technologie.
Ces populations qui vivent dans les campagnes, c'est à travers les radios que les informations peuvent leur arriver. Comme votre radio, qu'on peut l'écouter un peu partout dans la Côte d'Ivoire et dans les hameaux. Donc les populations peuvent écouter les informations à la radio pour être informées en amont si un événement météorologique arrive.
Et en conclusion?
Oui, en conclusion, j'ai 6 comportements à faire passer en cette saison de pluie. Le premier bon comportement pour les populations, c'est de se tenir informé et de suivre régulièrement les informations à la télé, à la radio, sur les sites web et les réseaux de la SODEXAM pour les informations météo. Le deuxième comportement, je demande aux populations d'éviter de se déplacer ou de traverser des zones inondées à pied ou en voiture en cas d'inondation et de s'éloigner des eaux de ruissellement et de caniveaux. Le troisième, je leur demande de s'installer en hauteur à l'abri d'un bâtiment quand il y a les inondations. Le quatrième, c'est d'être rassuré que les enfants en bas âge sont à portée de vue des adultes. Le cinquième, c'est d'avoir les informations des voisins et personnes vulnérables. Enfin, le sixième, c'est d'appeler les secours en cas d'urgence.
Je vous remercie, M. Fulgence Nguesson.
Merci, M. Adam. Ça a été un plaisir pour moi.
Vous écoutiez l'entretien avec l'invité de la rédaction, le chef du service prévision générale et météo marine à la SODEXAM, Fulgence Nguesson. Place à présent au rappel des titres de ce journal. Lancement officiel hier lundi des activités de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Celui-ci offrira un cadre de réflexion et de partage d'expériences et d'expertise en vue de faire face aux enjeux de développement durable. Fermeture officielle des pêches en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure les consommateurs de la disponibilité de poissons durant la période de fermeture. Et puis hors de nos frontières, Internet est coupé depuis hier en Mauritanie dans un climat de contestation après l'annonce des résultats finaux provisoires de la présidentielle donnant le sortant El Ghazouani vainqueur. Fin de ce journal, tout de suite la revue de presse avec Aoussi Potin.
Bonjour à tous. Du 27 novembre au 2 décembre 2024,